J'ai lu dernièrement sur le site statiste.com, je ne sais pas si je le dis bien, j'ai lu ceci. Les Français sont joyeux. Ah ouais. Selon le baromètre 2017, les Français et la joie, entre guillemets, de RCF Radio en collaboration avec l'Institut CSA. Donc écoutez bien, 81% des personnes interrogées se déclarent en effet joyeuses. Waouh! Dont 8% très joyeuses, constatant avec l'idée d'un Français râleur et morose, n'est-ce pas? Mais écoutez la suite, c'est très intéressant. Toutefois, l'étude révèle que paradoxalement, une majorité de répondants ne pensent pas leurs concitoyens joyeux. Ça met de l'équilibre. Alors, que sont devenus ces chiffres depuis la période Covid dans laquelle nous sommes? Ce n'est certainement pas comme 2017. Sommes-nous plus râleurs, négatifs, pessimistes en France? En tout cas, je perçois un grand besoin de joie. Je m'en rends bien compte dans les concerts de gospel que nous donnons avec la chorale. Les gens ont besoin de joie. Je discute à la fin des concerts et j'entends ce besoin et la reconnaissance profonde que les gens ont de pouvoir vivre ces concerts parce qu'ils ont besoin de cette joie. En fait, nous avons tous besoin de joie. Pour le chrétien, le sujet de joie le plus grand et capable de demeurer même dans les temps de crise, c'est Jésus-Christ et tout ce qu'il a accompli pour nous sauver. Mais, malheureusement, nous pouvons passer si souvent à côté de cette joie au quotidien. Écoutez bien ceci. C'est insuffisant de mieux connaître Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous si nous ne sommes pas poussés à l'apprécier davantage et à exploser en louange. J'ose dire exploser en louange, ça me fait penser à un chant où l'auteur dit exploser en louange. Ça me fait toujours rire quand j'entends ça. Mais c'est vrai. Si ce que Christ a fait ne nous amène pas à la reconnaissance, il y a un problème. J'aime ce que C.S. Lewis a écrit, cet écrivain connu. Il dit ceci: Je pense que nous trouvons du plaisir à louer ce que nous apprécions, parce que cette louange non seulement exprime, mais complète aussi le plaisir lui-même. Alors, faut prendre beaucoup de temps pour comprendre et saisir la profondeur de ce qu'il dit. Je le redis, puis après vous aurez toute la fin d'année pour méditer, hein. Je pense que nous trouvons du plaisir à louer ce que nous apprécions, parce que cette louange non seulement exprime, mais complète aussi le plaisir lui-même. Fin de citation. Il a bien raison. Lorsque nous apprécions quelque chose, le fait de dire notre joie exprime en fait notre plaisir, mais aussi complète et intensifie ce plaisir. Je pense que vous êtes tous comme moi. Quand nous avons reçu un sujet de joie, nous avons envie de l'exprimer et de le partager. On va pas l'étouffer quand même. Et le fait de le dire et d'en parler à d'autres permet d'intensifier notre joie. Mes amis, devant notre appréciation de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous, nous sommes appelés à contempler et à intensifier notre joie en lui. Le chemin, c'est la louange. Le chemin, c'est la louange. Et pas la louange quand tout va bien, mais en toutes circonstances. Voilà pourquoi j'aimerais ce matin vous amener à la joie au travers de la parole de Dieu. Nous continuons aujourd'hui notre série de prédications qui s'intitule Jésus, l'homme le plus admirable. Dimanche dernier, nous avons admiré Jésus, qui est une lumière qui chasse les ténèbres du péché, de la mort, de la souffrance. Il est la lumière qui nous permet de devenir enfants de Dieu et il est la seule lumière qui ne s'éteindra jamais. Et je me rappelle ce petit suspense de dimanche dernier. Hein. Est-ce que la lumière que j'ai, sur laquelle j'ai soufflé, la bougie, va se rallumer? Cette lumière de Christ ne s'éteindra jamais. Notre espoir, notre espérance, c'est du solide sur Jésus-Christ. Ce matin, je vous invite à la joie en remerciant Jésus-Christ pour trois raisons. Commençons par le premier sujet de joie. Premièrement, Jésus-Christ est venu sur terre pour sauver tous les peuples. Dans quelques instants, nous allons lire dans la Bible, en Luc, chapitre 2, versets 29 à 34. Luc 2, 29 à 34. Avant ce texte, nous lisons que Marie et Joseph pratiquent des rites que les familles juives devaient accomplir. 8 jours après sa naissance, Jésus se fait circoncire. Quick! On lui donne le nom de Jésus, comme l'ange avait indiqué. 40 jours après sa naissance, Marie et Joseph vont à Jérusalem pour offrir au temple un sacrifice pour leur purification et ils consacrent à Dieu Jésus-Christ, car c'est un premier-né. C'est ce qui se faisait. Et un homme appelé Siméon est présent, lui aussi, à Jérusalem au même moment. Cet homme est très âgé. Il est juste, il est pieux et le Saint-Esprit repose sur lui. Il vit dans l'attente du salut d'Israël, du peuple de Dieu. Ce qui est surprenant chez cet homme, c'est que le Saint-Esprit lui a donné l'assurance qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé de Dieu. Je ne peux pas mourir tant que je ne vois pas cet enfant. Et cette promesse, il l'a. Il a cette assurance. Le Saint-Esprit de Dieu le pousse à entrer dans le temple à la rencontre de Jésus. Quand il voit Jésus, on ne sait pas si on lui a dit que c'était Jésus ou quoi. En tout cas, il voit Jésus, il le prend dans ses bras et il loue Dieu. Et voici ce qu'il dit dans Luc chapitre 2, les versets 29 à 34. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Et ensuite, on voit le Père et la Mère de Jésus qui étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon, à la fin, les bénit. On verra la suite. Siméon est heureux. Il a attendu longtemps l'arrivée du Messie. Il dit qu'il peut maintenant s'en aller en paix. On pourrait dire, mais n'a-t-il pas envie de voir la suite de l'histoire de Jésus? Non, il est satisfait. Il sait ce qui... Il a l'air de connaître la suite et il le dit lui-même. Il confirme devant Marie et Joseph que cet enfant est bien le Messie promis. Dieu a tenu sa promesse. Siméon dit de l'enfant qu'il vient de Dieu, qu'il est le Sauveur de tous les peuples, qu'il est la lumière pour éclairer les nations, qu'il sera la gloire d'Israël, le peuple de Dieu. Lorsque Siméon dit que Jésus est la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, peuple de Dieu, il cite ici le prophète Ésaïe. Il proclame donc ainsi avec force la fidélité de Dieu qui accomplit ses promesses. Waouh ! Siméon dit que l'enfant aura un fort impact positif sur le monde entier, car il vient pour sauver tous les peuples. Nous l'avons lu dimanche dernier, nous l'avons relu encore tout à l'heure, que Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Et ce texte s'étend ici à toutes les nations de la terre. Le but de Dieu est de faire de tous ses enfants, des enfants de Dieu par Jésus-Christ. Le père et la mère de Jésus sont émerveillés Parce que Siméon leur a dit que leur enfant est un cadeau de Dieu et qu'il est la lumière des nations. C'est énorme de dire cela. Quel privilège immense, quel privilège immérité et quel honneur. Et en même temps, quelle responsabilité. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, pour ce premier point, réjouissons-nous parce que Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver. Ne restons pas comme certains qui pourraient dire « Oh, je connais ce message depuis tant d'années, maintenant passons à autre chose. » Oh, ce message n'est pas normal. Et s'il est devenu normal pour nous chrétiens, c'est qu'il y a un problème. Que Dieu vienne sur terre par Jésus-Christ et donne sa vie pour nous sauver, on doit encore être bouche bée, émerveillé devant cela. Sans sa venue, la mort, la souffrance et l'enfer resteraient nos destinées pour toujours. Sans lui, pas de salut, pas de vie éternelle, pas de paradis. Louons donc Jésus-Christ d'être venu pour nous sauver. Continuons à le louer sans cesse. Voici le deuxième sujet de joie qui, à première vue, est très bizarre. Je vais le dire ainsi. Jésus-Christ est venu sur terre pour dévoiler nos péchés. Oh ! Écoutez la suite de notre texte dans Luc chapitre 2, donc versets 34 à 35. Je cite « Siméon les bénit », donc il bénit Marie, Joseph, « et il dit à Marie, sa mère, sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Fin de citation. Siméon parle de Jésus, qui sera une occasion de chute et de relèvement. Il suscitera la contradiction et Marie aura le cœur comme transpercé par une épée. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a de joyeux dans ce texte? Siméon n'est-il pas en train de casser l'ambiance en détruisant la joie et l'émerveillement de Marie et aussi de Joseph? Prenons un moment pour creuser ces deux versets. Je lis le verset 34. « Cet enfant est destiné à être, pour beaucoup, en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. » Siméon fait encore référence à un texte très ancien dans Ésaïe. Et là, c'est au chapitre 8, versets 13 à 15. Je vous invite à le regarder. C'est écrit ceci, « Reconnaissez comme le Saint, le Seigneur des armées célestes. C'est lui que vous révérerez, lui qu'il faut redouter. Il est un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher pour les deux royaumes d'Israël, des deux royaumes israélites, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'entre eux s'y heurteront et tomberont, et ils se briseront, ils seront pris au piège et capturés. » Voilà le texte de référence ici. Dans ce texte, Ésaïe invite ses contemporains oppressés par leurs ennemis à révérer Dieu, à le respecter au plus haut point, à avoir pour lui la plus haute considération, la plus haute estime et admiration, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint et parce qu'il est parmi eux. Aussi, parce que prendre Dieu à la légère constituera un danger terrible pour tout le peuple. Dieu est comme un rocher solide, nous dit le texte. Il sauve celui qui s'appuie sur lui. Et il sauve aussi ceux qui lui font confiance, qui font confiance à Dieu. Mais il est un obstacle pour celui qui s'y oppose. Rejeter Dieu conduira le peuple à une ruine totale. Malheureusement, plusieurs du peuple de Dieu s'étaient éloignés de lui. La manière dont Dieu corrige son peuple, c'est en laissant d'autres peuples les asservir. Voici le sujet de joie qui rejoint le premier que nous avons vu. Lorsque nous venons à Jésus-Christ et le suivons, il nous, on reprend le terme relève. Il nous relève en nous sauvant du péché, de la mort, et en faisant de nous ses enfants, des enfants de Dieu, et aussi en nous donnant la vie éternelle. Dieu nous relève spirituellement. Mais attention, ce rocher peut être une occasion de chute. Si nous prenons à la légère la présence du Messie, de Jésus-Christ, de Dieu qui est venu sur terre, nous serons en grand danger de mort spirituelle et éternelle. Si nous rejetons Jésus-Christ, nous rejetons aussi Dieu lui-même, la vie éternelle qu'il veut nous offrir et le bonheur sans fin qui ne se trouve qu'en lui, que dans sa présence. Continuons notre texte. Donc je vais lire la fin du verset 34 et la suite le verset 35. Il sera, donc Jésus, un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Étrange ce texte. L'attitude de joie de Siméon aurait dû être l'attitude de tout le peuple d'Israël. Normalement, le peuple de Dieu et en particulier les chefs religieux juifs qui connaissaient la loi par cœur, auraient dû reconnaître Jésus comme le Messie. Sa venue aurait dû être merveilleuse et amener tout le monde à l'aimer, l'adorer, le servir. Jésus n'est-il pas irrésistible ? Lui qui est parfait, saint, sans défaut, débordant d'amour, de compassion et rempli de la parole de Dieu. N'est-il pas irrésistible ? Lui qui a accompli une multitude de miracles, de guérisons, lui qui a chassé des démons. On voyait des foules qui venaient à sa rencontre. N'est-il pas irrésistible ? Le tableau est tout le contraire de ce qu'on attendait. Bien sûr, plusieurs ont suivi Jésus-Christ, mais pour d'autres, il a suscité beaucoup de contradictions. Il faut dire que Jésus n'allait pas de main morte dans ses paroles pour dévoiler les choses cachées dans les cœurs. Il voyait le cœur de tous et osait dire à ses auditeurs leur péché. Il dévoilait l'hypocrisie. Même sans parole, l'attitude juste de Jésus-Christ révélait aux autres leurs actes mauvais. Jésus-Christ a toujours révélé le péché pour changer des vies. Il veut amener à lui chaque personne afin de la sauver de la mort pour appartenir à Dieu éternellement. Donc, ce n'est pas négatif quand Jésus veut dévoiler les péchés. C'est toujours pour changer des vies et sauver. Dans la Bible, en Jean chapitre 3, versets 19 à 20, nous voyons pourquoi Jésus-Christ a suscité de l'opposition. C'est très intéressant. Écoutez cela. La lumière, donc la lumière c'est Jésus, est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Ah, intéressant. Intéressant ce texte. Malheureusement, du temps de Jésus-Christ, plusieurs ont préféré les ténèbres. Ils ont parlé mal contre Jésus-Christ. Ils l'ont insulté. Et les insultes sont allés croissant, jusqu'à dire qu'il est le diable en personne. On ne peut pas faire mieux en insulte, hein. Ou pire plutôt. L'opposition était très forte. L'opposition a révélé au grand jour les pensées cachées de plusieurs, en particulier celles des chefs religieux juifs de l'époque. Leur attitude envers Jésus-Christ a révélé leur jalousie, leur orgueil, leur méchanceté, leur hypocrisie, leur superficialité, la superficialité de leur religion, leur légalisme, leur autosatisfaction et leur insoumission à Dieu. Sans s'en rendre compte, eux qui disent que Jésus est comme le diable, ces chefs religieux ont laissé plutôt un grand accès au diable dans leur propre cœur, dans leurs pensées, dans leurs motivations et dans leurs actions. Ils ont tué le Messie qu'ils attendaient. C'est de la folie. Mes amis, Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver. Et pour nous sauver, il est venu aussi pour dévoiler nos péchés. Et vous savez quoi? Cela, c'est vraiment un sujet de joie. Parce que pour être sauvés par lui, nos péchés doivent être révélés, dévoilés. Il n'y a rien d'agréable, bien sûr, quand nos péchés sont révélés. Toutes les fois où quelqu'un me dit « tu as mal fait ceci ou cela », je ne suis jamais en train de dire « ah, c'est tellement gentil de m'avoir dit ça, c'est extraordinaire ». Non, mon orgueil fait que j'ai une tendance à vouloir me justifier et je n'aime pas ça du tout. Il n'y a rien d'agréable à ce que nos péchés soient révélés. Mais ce n'est qu'en reconnaissant toutes nos désobéissances à la volonté de Dieu, ce n'est qu'en reconnaissant notre rébellion envers Dieu que nous pouvons ainsi reconnaître que nous avons besoin entièrement de Jésus-Christ pour être sauvés. Si nous reconnaissons nos péchés, la Bible dit, si nous reconnaissons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal, si nous reconnaissons nos péchés. Et quand nous sommes sur le chemin de reconnaître nos péchés, nous sommes conduits à demander pardon à Dieu et à venir à Jésus-Christ pour recevoir son pardon. Cependant, si nous détestons le dévoilement de nos péchés ou préférons juste nous justifier, nous rejetterons Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait pour nous. Agir ainsi nous maintiendra loin de Dieu pour l'éternité. Et cela est terrible. Mes amis, réjouissons-nous parce que Jésus-Christ dévoile nos fautes pour nous conduire à lui, afin d'être pardonnés de tous nos péchés. Merci Jésus-Christ de dévoiler ce qui ne va pas dans notre cœur, parce que tu désires ardemment que nous soyons pardonnés. Amen. Troisième et dernier sujet de joie. Jésus-Christ est venu sur terre pour mourir à notre place. Écoutons la suite. Donc Luc, chapitre 2, verset 35. « Quant à toi, en parlant de Marie, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Je pense qu'elle n'a rien compris à ce moment-là. Mais la Bible, qui nous donne la suite de l'histoire de Jésus, nous aide à comprendre ce que Siméon était en train de dire. Siméon parle ici de la croix. Jésus connaîtra le rejet, la haine, jusqu'à être cloué sur une croix, comme un criminel. Marie devra supporter l'une des douleurs les plus horribles d'une mère, voir son enfant mourir sur un objet de torture. Mais Jésus doit vraiment passer par ce chemin de souffrance, par ce chemin douloureux. C'est inévitable. Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22. « Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. » Écoutez la suite. « Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. » Ce texte dit clairement que le pardon des péchés dont nous avons besoin n'est possible que par le sang versé. Il fallait que le sang de Jésus-Christ coule pour nous, parce qu'il est le seul à être totalement pur et parfait pour pouvoir nous pardonner définitivement. Plus besoin de sacrifices d'animaux, comme ça se faisait sous l'ancienne alliance. Regardez encore un autre texte, dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. L'apôtre Paul dit ceci, « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos péchés, de nos fautes. » Ce texte dit que notre délivrance du péché et de la mort, ainsi que le pardon de nos fautes, ont été rendus possibles parce que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice. Le chemin de douleur était donc incontournable. et cela pour que nous soyons sauvés. Marie devait donc passer, elle aussi, par cette terrible douleur, parce que Jésus-Christ devait donner sa vie pour nous sauver. Mes amis, réjouissons-nous, parce que Jésus-Christ est venu sur terre pour donner sa vie à notre place. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritions à cause de nos fautes. Il nous offre sa sainteté et nous permet d'être pardonnés pour appartenir à Dieu éternellement. Que notre reconnaissance soit immense ce matin. Je vais maintenant conclure. Nous avons vu trois sujets de joie. Jésus-Christ est venu sur terre pour sauver tous les peuples, pour dévoiler nos péchés, afin de reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur et reconnaître nos fautes devant lui. Et enfin, il est venu pour mourir à notre place. C'était incontournable. La douleur, le chemin douloureux était inévitable. Qu'allons-nous faire maintenant de ces bénédictions? Si vous n'avez pas encore demandé pardon à Dieu pour vos fautes et placé toute votre confiance en Jésus-Christ pour recevoir son pardon et la vie éternelle, venez à lui maintenant. N'attendez pas demain. Par la prière, venez à lui avec vos mots. Demandez-lui pardon. Demandez-lui de se révéler à vous. Soyez ensuite réconciliés avec Dieu en plaçant votre confiance en Jésus. Pour nous qui appartenons à Dieu, que devons-nous faire devant l'immense amour de Dieu, devant tout ce que Jésus a fait pour nous? Eh bien, la Bible nous invite à la louange. Elle nous invite à le remercier sans nous arrêter. Faisons tout notre possible pour que nos journées et ces temps de fête soient saturés de louanges à Dieu. Et quand ça ne va pas, parlons-en à Dieu et reprenons le chemin de la louange. Faisons comme plusieurs dans les moments d'épreuve qui écoutent des chants de louange. Peut-être n'arrivent-ils pas à les exprimer parce que les souffrances sont terribles, mais ils mettent au moins des morceaux de louange, des chants de louange, et en les écoutant, se laissent apaiser par des louanges à Dieu. Agir ainsi, le fait de rester dans un climat de louange, fera plaisir à Jésus-Christ, l'honorera et aussi aura un puissant impact sur nous et dans nos relations. Ce point, j'aimerais vraiment le souligner parce que la louange est une discipline spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on a envie de le faire. On loue Dieu parce qu'il est digne d'être loué. Mais on passe tellement à côté de l'impact de ce que la louange peut produire dans nos vies. Donc ne laissez pas la louange au dimanche matin. Ne le laissez pas de temps en temps dans la semaine. Faisons tout notre possible ensemble pour que nos journées soient remplies de louanges. Je me rappellerai toujours de ce texte où ça dit d'être rempli de l'esprit, vous rappelez dans Éphésiens. Et juste après, ça parle de louange. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, etc. etc. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte dans ce texte de l'apôtre Paul, il est en train de dire, certains commentateurs vont donner les deux sens, et je trouve ça très fort. Une vie remplie du Saint-Esprit, c'est une vie remplie de louange. Donc si tu veux savoir si tu es rempli de l'Esprit, est-ce que ta vie est remplie de louange à Dieu? Hein? Ça peut peut-être nous reprendre là. Hein? Mais inversement, intéressant. Si je veux avoir une vie remplie de l'Esprit, de Dieu, être rempli de Dieu, je dois emprunter le chemin aussi de la louange. Et donc, que Dieu nous aide dans ces temps de fête à progresser dans notre louange à Dieu et admirer toujours plus notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier. Dieu notre Père, merci pour ton immense amour. Nous méritons tous la mort et l'enfer, mais par Jésus-Christ, nous pouvons être pardonnés et être réconciliés avec toi pour l'éternité. Jésus-Christ, tu as fait l'impossible pour rétablir notre relation avec Dieu. Combien nous te sommes reconnaissants. Merci infiniment d'être venu sur terre pour nous sauver, pour dévoiler nos péchés et pour mourir à notre place. Nous te demandons que plusieurs viennent à toi, dans nos familles, dans ce monde, que plusieurs se rendent compte plutôt reçoivent la révélation de ce qu'est vraiment Noël et passent de la mort à la vie. Nous prions aussi pour nous qui t'appartenons. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas loué ton nom, où la louange, nous la laissions trop souvent juste au dimanche matin. Aide-nous, Seigneur, à nous maintenir dans la louange. Remplis-nous de ton esprit et de ta joie. Que nos journées soient, oui, saturées de louanges envers toi. Que nos merci montent sans cesse jusqu'à toi, parce que tu le mérites. Et parce que nous voulons te faire plaisir. Et de plus, parce que tu veux nous transformer à l'image de Jésus-Christ par le chemin de la louange. Notre Dieu, encore un immense merci pour Jésus, sa venue, sa mort, sa résurrection et son retour. Nous t'aimons, notre Dieu. Amen.